Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les livrent. Bon dimanche à tous, mon invité c'est Majid Cherfi aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, La part du Sarrasin aux éditions Actes Sud. C'est un récit et pourtant on y retrouve votre double littéraire, le Maj. Emprunt à de curieux doutes, hein. C'est les années 80 en fait que vous retracez dans ce livre, à peu près 80-90, même si l'action va jusqu'en 92, mais c'est surtout le milieu des années 80. On est à quelques mois de la marche des beurs. Et lui, finalement, il a d'autres préoccupations. Il est plus préoccupé par son avenir de chanteur que par son engagement politique qui le taraudait depuis des années.
Oui, c'est aussi l'histoire de cette schizophrénie-là, parce que il est historiquement dans un quartier et dans un mouvement politisé, parce que les associations dans les quartiers, à ce moment-là, elles se politisaient dans le sens où fallait remettre en question une république qui ne répondait pas à ces injonctions d'égalité, de fraternité. Et donc, il est quand même sincère dans son envie d'en découdre avec la chose politique, mais tout à coup, la musique vient.
Mais pas maintenant. En fait, ce qu'il dit, c'est trop tôt.
Oui.
Non, mais parfois, on est rattrapé par la grande histoire.
Ouais. Il a envie de reporter parce que tout à coup la musique est là, et la musique, bon, c'est la gloire, c'est les étoiles, le zénith, les filles, et ses copains du groupe lui disent, ben fais Majid, t'es un artiste, on fait des concerts, pas des meetings. Et puis les copains
c'est au moment où se pose la question de savoir si on peut politiser, on va dire, les textes du groupe.
Oui, et c'est une période aussi où il y a tous ces groupes de rock alternatifs et qui sont quasi tous politiques ou en posture de politique, et tous crient la jeunesse en mer, le Front National, etc. Et donc il est de bon ton d'être dans une extrême gauche de Rose, de Dahlia et de Bégonia.
Alors donc lui c'est le leader d'un, enfin leader, en tout cas c'est le chanteur d'un groupe, hein. Punk rock, toulousain.
Oui.
C'était pas Zebda, c'était pas trop punk rock finalement.
Pas trop punk, c'était ska reggae rock.
Ouais. Ça marchait bien ça en région toulousaine, hein, le ska.
Oui, il y avait un mouvement Redskin, il y avait une mouvance antifasciste, Ralph Ron. Donc il y avait une ébullition toulousaine, ouais.
Ouais. Et puis il y a aussi la construction d'un groupe, alors qu'il commence à avoir du succès, on ne sait pas. En tout cas, il tourne, et on ne sait même pas si on peut appeler ça des tournées dans sa vieille estafette.
L'estafette.
Voilà. Et de voir que finalement la galère que c'est de débuter finalement quand on est un groupe.
Ouais, je me dis que ça ferait peur aux jeunes groupes de rap aujourd'hui qui démarrent avec l'objectif d'un tube et des passages radio. Et à cette époque-là, on partait en tournée, mais en fait, on voguait de bar en bar. Et dans ces bars, on pouvait trouver des patrons un peu fachos, d'autres plus sympathiques. Et souvent, ils s'étonnaient qu'on veuille être salarié, parce qu'ils pensaient que chanter, c'était la récré, on va quand même pas vous payer. Donc j'ai appartenu à cette histoire.
On vous donnait une bière et pas deux.
Voilà. Voilà, une bière. Et, attends, je vous offre une bière et vous pouvez dormir là-haut dans le...
Vous tournez, il n'y a qu'un lit pour sept.
Oui. Dormir par terre, manger froid. Des négociations en fin de concert de salaire. Absolument, quand on y pense aujourd'hui, c'est effrayant. C'était 1000 francs pour 7 mecs. Alors évidemment, oui, il y a un jeune en face de vous.
Qui dit, alors, francs, en euros, en euros, ça fait combien? Ça fait 150 euros en fait.
Ok, merci.
Ouais. Et donc y avait ce combat d'exister musicalement et puis surtout d'affronter l'indécence à vouloir être salarié par ses patrons de bar. Voilà.
Ouais. Le Madge, lui, on sent que le fait, il veut être connu, reconnu, il veut la gloire, mais ce qu'il veut aussi, c'est que les mecs de sa cité, ils le reconnaissent en tant qu'artiste. Et ça, ça a été quelque chose de dur pour vous, ceux avec qui vous avez grandi vous donnent la reconnaissance en tant qu'artiste et disent on aime bien ce que tu fais comme artiste.
Oui, oui, ça a été dur parce que la notion d'artiste dans les quartiers, c'était des costards à paillettes, des boîtes de nuit, des musiques de danse, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, de la musique black et dansante, et des guitares.
C'était la funk.
Oui, funky même. Ouais, ouais. Parce que funk, c'était déjà un peu intellectualisé.
C'était touchy, ouais, ouais, ouais.
Ouais. La funky, tout ce qu'il y a de plus robotique, c'était, Saturday Night Fever.
En soi, c'était du disco, plus.
Non, pas... avec le
North Wind and Fire, on est plus
comment s'appelle-t-il le film là avec le célèbre film des années 80, merde.
Avec qui? Avec Travolta.
Travolta.
Ouais, la fièvre du samedi soir.
Voilà,
ouais,
c'était ouais, ça, ouais. Un quartier, c'était ça. Faire du rock dans quelque chose de bruyant, de désordonné et ne pas passer à la télé, c'est être une cloche. Et donc les mecs, mais pourquoi tu passes pas à la télé tout de suite? On dit que tu fais de la musique, pourquoi t'es pas chez Drucker? Et donc si t'es pas chez Drucker, t'es une merde. Ouais. Et si tu fais de la musique rock, t'es donc blanc, donc tu nous as trahis, va niquer ta mère.
On en revient à la question de l'identité. Ouais. Le mot trahison, par exemple, pour votre personnage, le match, ça c'est le mot... Voilà, c'est le mot vraiment il ne supporte pas ce mot, oui. Puisqu'à chaque fois on l'accuse d'être traître à quelque chose.
Oui, oui. Alors je suis un homme de lettres, j'écris dans le quartier, je suis le poète. J'étais le poète de quartier, donc j'étais un traître parce que écrire ou lire, ça suppose une féminité.
Quand vous le dites à un moment donné, ça m'a étonné.
Oui. Ouais. Oui, 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 parce que quand on est un homme, on n'est pas bon à l'école, on casse des dents et on va, et les blancs sont les ennemis, quoi. On n'est pas français, merde. Sans pour autant être arabe, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas une revendication identitaire à cette époque. Mais il y a les Français, ils nous veulent pas, on va leur péter les dents. Et toi, t'es avec des Français, ils sont musiciens. Tu fais le poète, tu fais de la musique, t'es artiste, et en plus, j'étais déjà dans un discours féministe, mais
oui, à l'époque,
je cumulais toutes les trahisons.
Il y a un moment donné, il est interrogé par, alors sur l'identité, hein, c'est comment est-ce qu'on peut être française sans l'être, arabe sans jamais l'avoir été, et musulman sans même croire. C'était compliqué de définir l'identité.
Moi, c'était compliqué, d'autant plus que c'est une période où ces questions se creusent. Avant ces années 80, on se posait pas la question. Il y avait une seule certitude, on n'est pas les bienvenus. Et il y a une guerre frontale entre deux clans. Il y a les blancs, pour tout dire, et les autres. Et les premiers lycéens débarquent, ce qu'on appelait la seconde génération. Et on pose les questions de la République, de la laïcité. On se dit, tiens, alors on est avec des copains au lycée qui croient pas en Dieu. Et alors, on est au lycée et on a l'air un peu stupide de dire, ouais, moi, je crois en Mahomet. Mais pourquoi? Les mecs te disent, pourquoi? Ça te dit pas d'être libre. Et hop, on est infusé. Et comme tous ces mecs sont extrêmement séduisants, parce qu'ils parlent du libre arbitre, de la liberté sexuelle, de la liberté de penser, etc., on fonce droit devant, et puis on se dit, merde, ouais, mais je vais pas croire en Dieu, puisque les mecs qui sont cool n'y croient pas.
Mais je mange pas de porc, hein.
Mais je mange pas de porc, voilà, absolument.
C'est pas négociable.
Voilà, c'est ça. Je suis pas musulman, ouais. Mais je mange pas de porc. Et les copains français, bon, c'est aussi ce que je raconte, ils sont... Mais t'es complètement schizo, quoi.
Il y a une anecdote qui l'illustre. Elle arriva au cinéma avec son pote. Il y a aussi beaucoup de films de l'époque, hein, parce que c'est l'arrivée de la VHS. Là, on parle au jeune qui est en face de nous, qui sait pas ce que c'est. Mais il sait pas ce que c'est que quand on a vu.
C'est les cassettes vidéo.
Ouais, mais quand on a vu arriver les vidéos, c'était pour la première fois, on pouvait enchaîner les films.
Oui.
On pouvait faire un après-midi film, parce qu'on pouvait pas imaginer avant. Et donc, il va au cinéma, il va voir, donc c'est la femme de mon pote avec son copain. Pote. Donc avec Thierry Lhermitte, Coluche, le film de Bertrand Blier.
Absolument.
Et Isabelle Huppert.
Isabelle Huppert.
Voilà. Et il me demande, alors, t'as pensé quoi du film ? Il dit, mais ça reste un film pour français.
Ouais.
C'est quoi un film pour français ?
Mais c'est ce que dit mon personnage à ce pote. Il y a une gamberge, donc c'est évidemment une meuf très belle et un pote qui vient de chourer la meuf de son pote. Alors pour le match, c'est ça un film français, c'est ouais. Une meuf, deux mecs et si possible des amis et ils se trahissent tout en ne se séparant pas. Et donc cette espèce de liberté, ouais. Libertine, un regard libertin. Et il lui dit, bon, ben, c'est un film français, c'est ça, c'est...
Alors son pote, il doit être breton, parce qu'il s'appelle Pierrick. On peut imaginer qu'il est breton, mais... Et alors il lui demande ce que c'est qu'un film français, il lui répond en français... il lui demande ce que c'est qu'un français, il lui dit un français, c'est grand, blanc, beau, ça lit Rimbaud, Balzac ou Monterland, ça cherche à casser les codes, à bousiller les a priori, à couper la tête d'un roi, les couilles à Dieu, et surtout, ça veut la femme de son voisin.
Ouais. Alors, évidemment, il sublime le français, parce que c'est un personnage qui découvre la France au lycée. Et donc, il se dit, mais c'est marrant, avec mes copains français, tout est ouvert, et dans le quartier, tout est tabou. Et donc, il a tendance à sublimer le français.
Le reste du monde est incarné par ses deux meilleurs amis, hein, Samir et Momo,
ouais.
Qui le ramènent à une forme de réalité et qui lui, peut-être, met sous le nez, lui balance le conflit de loyauté.
Oui, parce qu'ils grandissent ensemble et sont lycéens ensemble. Et donc ils découvrent l'idée de l'idée républicaine. Ils découvrent la gauche qui est arrivée au pouvoir à ce moment-là. Ils sont dans les arcanes des partis politiques et donc ils mettent en place un combat qui va défendre la Palestine, défendre les nôtres et pour ça, tout doit être sacrifié au nom du combat de la marche des beurs, donc qui était la marche de l'égalité, voilà, qui est en vérité la marche de l'égalité, et donc tout doit être sacrifié au nom de la cause. Et sauf que eux sont en plein dedans parce qu'ils sont militants et dans l'assaut. Sauf que le match, lui, il y a la musique, et la musique, bon...
C'est plus fort que tout.
C'est, voilà,
c'est dans les étoiles.
C'est plus fort que l'idée politique, ouais.
Majid Cherfi défend son dernier roman, La part du Sarrasin, aux éditions Actes Sud, et on en parle jusqu'à 13h dans le Book Club.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le book club qui a lu pour vous cette semaine le dernier roman de Majid Cherfi s'appelle La part du Sarrasin chez Actes Sud. On va écouter, Majid, si vous êtes d'accord, une chanson extraite de votre dernier album qui s'appelle Catégorie Reine. Et la chanson s'appelle Les filles d'en face. Hein, les filles d'en face, qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et le moment où vous situez l'action de votre roman, c'est-à-dire début des années 80, dans les cités.
Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je crains que rien n'ait changé dans le sens dans cette chanson là, les filles d'en face. Je raconte que sur le parcours de l'école, vous aviez, et ce qui est vrai, les garçons sur un trottoir et les filles sur un autre, et on partait au collège avec séparés par ce bout de bitume. Et je me dis, c'est marrant, 40 ans après, on verra pas une beurette tenir la main à un beurre dans un quartier.
Toujours pas.
Oui.
Ça va pas changer.
Oui. Ça va pas changer. Il y a une espèce de tabou comme ça où les filles doivent être vierges, propres.
On s'embrasse pas dans la rue.
On s'embrasse, non, en tout cas planqué. Mais, alors dans le quartier, certainement pas. Il y aura le fragin qui viendra vous péter les dents ou quelqu'un d'autre. Mais, deux jeunes d'origine maghrébine ne s'embrasseront pas, ne se tiendront même pas la main.
Nous c'était il sur le trottoir d'en face, et il y avait elle. Mes petits problèmes, voyous au féminin, ça fait jamais voyelle. Elles étaient si proches, juste éloignées de quelques mètres, qui ressemblaient à s'y méprendre au kilomètre. cause de quelques-uns qui aimaient pas Apollinaire et qui pour s'occuper se tripotaient comme des légionnaires. Si t'avais envie d'emprunter le chemin de ces écolières, tu rentrais avec les parties intimes en bandoulière, sous peine de plus ressembler au jour où tu es né, sous peine de voir toute ta famille exterminée, sous peine d'être par Tyson, Tyson pilonné, sous peine de pas passer l'année. C'était un trottoir, tout ce qu'il y a d'ordinaire, où cheveux volent au vent. Une époque où les brunes ne voulaient pas du voile ou du couvent. Elle qui fait pas pour des diplômes, mais une seule plaidoirie. Un beau mec, un billet sans retour, bref, une love story. C'est dire si nos petites gazelles nous avaient dans le nez. Pour un voyage au rayon des cuisines Arthur Bonnet. Oh, le trottoir d'à côté, le seul qui était éclairé, où je laissais mes yeux pour qu'elle puisse les réparer. Sous peine de plus ressembler au jour où tu es né, sous peine de voir toute ta famille exterminée, sous peine d'être par Tyson, Tyson pilonné, sous peine de pas passer l'année.
Mais qu'est-ce qu'il est beau quand même.
Ouais, c'est vrai, il est pas mal. Bon, du coup, il y a le pitch là, ça me fout d'avoir ramené ces gros connasses de copines en plus. Je vous fais celle qui. Je pense que je propose qu'on passe
naturelle. Nous, c'était il sur le trottoir d'en face, et j'y suis jamais allé. À cause des frangins, des cousins, des voisins qu'avaient de gros mollets. Elle nous disait, t'es moche et t'es frisé comme un mouton. Et comme la vérité a toujours le cœur en béton, on leur a fait la misère et poursuivi jusque dans les rêves. Comme si Adam avait préféré des pommes à Ève. Oh, le trottoir d'en face avec ses bas et ses collants qui nous tenaient en laisse comme si on était des cerfs-volants. Sous peine de plus ressembler au jour où tu es né, sous peine de voir toute ta famille exterminée, sous peine d'être par Tyson, Tyson pilonné, sous peine de pas passer l'année. Oh, sous peine de plus ressembler au jour où tu es né, sous peine de voir toute ta famille exterminée, sous peine d'être par Tyson, Tyson pilonné, sous peine de pas passer l'année.
Majid Cherfi, vous savez que vous chantez, vous écrivez de mieux en mieux. Est-ce que vous en avez conscience?
Je ne me rends pas compte, non, je ne me rends pas compte. Mais je sais que j'ai la volonté d'améliorer, d'affiner.
On dit jamais aux artistes, quand ils ont 20, 30 ans de carrière, que finalement ils chantent beaucoup. Non mais on leur dit jamais ça, qu'ils chantent beaucoup mieux, que finalement c'est plus efficace.
Ben alors bon, moi évidemment je fais partie d'une génération où on a fait du rock alternatif, donc l'ambition du chant n'était pas tellement là, c'était l'énergie.
Le match, votre héros, il braille.
Oui. Il a pas en tête l'idée de bien chanter, puisque il s'agit surtout de d'envoyer un message. Et donc hurler, il croit que c'est une façon de mieux transmettre l'idée qu'il a dans la tête. Et puis hurler, c'est, croit-il, être rock'n'roll.
D'ailleurs, à un moment, Ludo lui demande d'écrire un refrain en arabe.
Oui.
Et là, il lui répond :
je sais pas chanter en arabe. Je ne parle pas l'arabe. Et là, ils sont étonnés parce qu'évidemment, où est-il, ce Madj ? il est français ou il est aussi autre chose, mais arabe, bon, c'est pas trop... tu sais, ce truc-là de tes origines qu'on voit jamais, qu'on n'entend jamais. Et donc, ils ont du mal à le percevoir et lui-même étant dans cette espèce de balancier, il joue avec eux. Je veux pas vous dire, parce qu'il a quand même une colère, parce qu'il a, il a vu ses parents vivre tête baissée, et c'est les Français qui ont fait baisser la tête à leurs parents, et il, à l'intérieur, il a envie de dire, attention, hein, vous avez oppressé nos parents. Et il le dit pas. Et alors la France, est-ce que c'est ce grand pays des droits de l'homme ou est-ce que c'est ce grand pays oppresseur de toute sa famille? Alors voilà, il ne le comprennent pas et ils s'étonnent quand il leur dit « je parle pas l'arabe ».
Alors on est à quelques jours de ce qu'on appelait après la marche des beurs, mais c'est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Lui, il voit les images de l'arrivée de la marche.
À la télé.
Ouais.
Oui.
Et là, il y a un truc qui se passe.
Oui, il voit.
Mais peut-être, ils sont pas très nombreux à l'avoir vu à ce moment-là.
Ouais. Oui. Je sais pas si c'est là où vous voulez en venir.
Il voit la condescendance de François Mitterrand qui accueille.
François Mitterrand assis, voilà. Comme dans un trône, ouais. Louis XV, et tous ces mômes autour comme ça. Et il voit lui un monarque. Il voit un monarque condescendant, colonisateur, un blanc maître, et à nouveau des esclaves comme ça, colonisés, qui reviennent lui demander s'il veut bien leur octroyer l'égalité des droits. Et donc cette image le frappe, et effectivement, au lieu de l'égalité des droits, il propose une carte de résidence. Qui veut dire, alors, comme ce match de l'époque, il attend la gauche comme un messie. Avec la gauche, on sera frères. Il s'aperçoit que à droite, donc, c'est les ennemis, et à gauche, c'est... on vous accorde 10 ans, mais si vous pouviez repartir après ces 10 ans, écoutez, on ne serait pas plus fâchés que ça. Et c'est quelque chose qui, en vérité, ne quittera plus jamais le personnage du match avec... Est-ce que, jusqu'à la fin, les Français ne se diront pas, écoutez, les Noirs et les Arabes, si un jour ils nous proposaient de partir, peut-être nous en ferions pas une maladie.
C'est des années de montée du Front National. Finalement, 35 ans après, ça s'est complètement banalisé quand on regarde, quand on y pense.
Oui. C'est, on avait honte d'être au Front National. On le planquait, on votait, on en avait honte. Aujourd'hui, on a beaucoup moins honte d'être du Front National. Et même, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est les immigrés eux-mêmes votent Front National pour se débarrasser, en fait, des nouveaux arrivants. Et là, évidemment, il bascule le personnage dans une désillusion. Et c'est vrai que le livre porte une désillusion
de cette décennie, ouais. Mais qui viendra un peu après, hein, la désillusion.
Ça viendra après, mais enfin, elle commence quand même assez tôt.
Les gens réalisent Mitterrand en 88 comme qui rigole. Hein.
Ouais, oui. Mais en même temps, il y a cette...
Qui fait rentrer le Front National à l'Assemblée Nationale, faut quand même...
Ouais. Et toute cette population d'origine immigrée qui vote Front National. Et ils se disent, c'est pas possible, les Noirs et les Arabes sont censés voter à gauche. Et au début des années 80, on était quasi 100% de l'immigration à voter à gauche, et de beaucoup et de moins en moins aujourd'hui. Quand je dis 100%, je veux dire du peu qui votait, puisqu'il y a il y a 40 ans on votait très peu, et je pense que 40 ans après les quartiers votent très peu.
Toujours.
Ouais.
Au départ votre livre était fait pour être un livre d'amour. Alors ça l'est toujours, hein. Il y a toujours une histoire d'amour,
ouais.
Mais elle est passée en second plan, l'histoire d'amour.
Ouais, elle est passée en second, exactement.
Et vous dévoilez drôlement d'ailleurs en plus dans ce livre.
J'aurais voulu beaucoup plus.
C'est vrai?
Oui. Ouais. Oui, parce que je vais vous faire un aveu que je ne ferai pas à d'autres médias. C'est comme ça. parce que je me sens bien ce matin. J'ai vécu une j'ai une histoire d'amour avec j'ai connu ma femme à 14 ans et on s'est marié à 20 ou 21 ans et je me suis dit 40 ans de cette histoire-là, j'ai envie de les raconter et je voulais dire
fou, mais c'est fou parce que moi je te dis pas que c'était impudique mais je trouvais déjà que vous en disiez énormément par rapport à ce que je connais de vous et ce que je lis de vous depuis des années.
Mais bon, la littérature, c'est aussi un dénuement. Donc, j'aurais romancé, évidemment, mon histoire, mais je me suis dit, non, ça vaut le coup de... D'ailleurs, quelques couples que ce soit qui posent 40 ans d'histoire en commun avec... alors, c'est ce qui m'a excité dans cette idée, c'est le désir est toujours là. Parce que je parlais à des potes...
Mais c'est beau, ça, mais c'est énorme.
Oui, c'est assez sympa. Il vaut mieux, d'ailleurs. Et déjà me regarder en disant, mais tu rigoles, au-delà de 3 ans, mais toi et ta femme, comme les autres, vous vous racontez des salades, où t'as vu du désir après 3 ans. Et en fait, vous êtes planqué, embourgeoisé, vous n'avez pas envie de perdre votre précaré, et donc vous restez ensemble. Et moi, je me dis, alors, j'ai pas essayé de les convaincre, mais je me disais, non, il y a du désir, j'essaierai pas de convaincre quiconque, mais par contre, ça vaut le coup de raconter cette histoire. Alors, j'étais pas à la hauteur.
Non, mais comment votre...
Je vois dans votre regard.
Non, si, mais est-ce que vous avez fait lire l'histoire de la nuit à votre femme?
Oui. Ouais. Oui. Mais elle est comme moi.
Est-ce qu'elle a le même souvenir?
Je crois qu'elle aurait... Elle dirait, tu m'as ménagé.
J'adore.
Ouais. Oui, parce qu'on est deux jumeaux névrosés. Et quand je raconte l'histoire de la pizza avec elle, moi, je me suis retrouvé devant du porc et je me suis dit, bon, laïcité, égalité, fraternité, libre arbitre, porc. Je me suis attaqué à...
Et il y avait eu des pâtes avant avec du porc aussi.
Voilà,
des pâtes. À la bolognaise.
Et devant une pizza, elle s'est retrouvée devant le même truc comme un défi. Je me libère et on croit, bon, on a 20 ans, on croit qu'on se libère en mangeant des lardons. Et ben, c'est sympa comme idée.
Mathilde Cherfi est avec nous jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
La part du Sarrasin, c'est le nouveau roman de Majid Cherfi, qui est notre invité aux éditions Actes Sud. Je ne connais pas d'autres Majid avec un Y, comme vous.
Oui.
Ouais. Vous en connaissez d'autres, vous, ou pas?
Non. Je n'ai pas avec un Y.
Non. C'est pourquoi?
Comme plein de gens, j'ai eu des problèmes parce que le consulat d'Algérie dit « Non, mais ça ne s'écrit pas comme ça, donc il faut refaire, c'est un enfer. » Et puis... Je crois que j'ai dû mettre un Y. Est-ce que c'est un fantasme américain?
C'est votre signature aujourd'hui.
Être New-Yorkais, je sais pas, mais je l'ai fait et ça s'est implanté dans mon ADN.
Exactement. Ce qui fait que vous êtes unique. Ouais. On va écouter Inch'Allah peut-être. C'est une chanson pour votre maman. Quelle est la signification de ce Inch'Allah dans la bouche de votre maman?
Eh bien alors. C'est maman qui... Alors vous allez les voir, vous avez 12 ans. Maman, tu peux m'acheter une paire de baskets Adidas? Inch'Allah, mon fils. Maman, je pourrais avoir un jean 500? Inch'Allah, mon fils. Et derrière ces Inch'Allah, la promesse n'est jamais tenue.
Ouais.
Et alors on se dit, mais enfin, c'est quoi ce truc Inch'Allah, qui est en vérité une promesse divine, mais qui veut dire jamais.
Alors on écoute cette chanson dédiée à votre maman.
Maman avait, et c'était bien pratique, une réponse toute faite. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique, c'était niette. Un mot qu'avait rien d'érotique, un genre de réponse en carton, qui donnait dans le Pacifique, mais n'avait de pacifique que le nom. On a cherché dans le Larousse, ce mot qui vivait dans la brousse, mais à sa façon de le prononcer, on savait pas par quelle lettre fallait commencer à le découper sans qu'on le sache. La langue de Victor Hugo à la hache, et pour pas y être jusqu'à demain. Elle parlait avec ses mains. Et c'était Inch'Allah peut-être. C'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Maman avait une formule magique, une réponse à toutes nos questions. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique, c'était non. Et dans sa bouche magique, la même réponse, le même dicton, le même mot et la même réplique qu'on entendait sur tous les tons. Nous est apparu le mystère d'un mot qui voulait dire son contraire. Et comme si ça suffisait pas, un accent venait aggraver son cas. Car elle parlait la malheureuse, un français à la scie sauteuse. Nous pour comprendre un mot sur deux, on s'accrochait à ses deux yeux. Et c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Maman, qu'est-ce que ça veut dire Inch'Allah? Ça veut dire si Dieu le veut, si Dieu le veut. Mais s'il veut pas, s'il veut pas, ben tu peux dire adieu à ta casquette et à ton maillot de Beckham, ou à celui du petit génie argentin, à ta console, à ta PS, à ta bécane. T'auras rien. Et dans la bouche de ma mère, ce mot terrible qui nous promettait là l'une à condition de se taire. Oh, c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Inch'Allah peut-être, c'est la promesse mais qui a un mais. Inch'Allah peut-être, et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Et tant pis si ça n'arrive jamais.
Majid Cherfi, vous avez réussi quelque chose que peu d'entre vous, en tout cas les chanteurs, avaient réussi. C'est que vous avez réussi à avoir plus de succès en tant qu'auteur que chanteur. Alors moi, je pense à Yves Simon, à Pierre Perret, récemment Olivia Ruiz, qui a enregistré un duo sur votre dernier album et qui a connu un très grand succès de librairie. Est-ce que c'est plus valorisant de vendre des livres, enfin d'être un gros vendeur de livres, que d'être un gros vendeur de disques?
Alors, moi, je suis avant tout quelqu'un de l'écrit. Donc, j'ai essentiellement fait de la musique. Ma vraie identité, c'est l'écrit. Et donc, l'écrit a pour moi, évidemment, enfin, la version littéraire, il y a un prestige que n'a pas le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est les filles, les bars, et puis les choses qu'on inspire immodérément. Et par exemple, moi, ma mère, voilà, avec les livres, c'est enfin, t'es un adulte, t'es un homme, t'es grand, t'es haut. Avec la musique, bon, c'est oui, on te voit à la télé, mais on dirait un enfant, tu sautes partout. Bon, voilà, il y a une espèce d'image comme ça.
Peut-être que j'aime bien. Vous êtes devenu sérieux, en fait.
Je le crains, oui. Avec l'âge, oui, je suis.
Enfin, sérieux.
Je jump moins, effectivement.
Et vous avez connu un gros succès populaire. C'est-à-dire que les gens ont acheté votre livre, ils l'ont aimé. Oui. Ils vous l'ont dit. Qu'est-ce que ça vous a fait?
Alors, moi, évidemment, il y a un côté thérapeutique, bien sûr, parce que j'éprouve le besoin de dire, regardez comme je suis quelqu'un. C'est une notion de quelqu'un. Et donc j'ai couru toute ma vie derrière cette idée de être dans une singularité. Alors évidemment, avec le succès de Ma part de Gaulois, j'ai senti une validation. Ouais, t'es quelqu'un. T'es pas un géant, mais t'es quelqu'un et ça apaise le cœur, ça ouvre l'âme et ça me voilà, ça a creusé une espèce de sillon dans lequel l'eau peut désormais l'eau littéraire peut s'écouler à flot.
Mais c'est intéressant puisque vous tournez autour de la question de l'identité depuis longtemps. Ouais. Et là vous dites que finalement ma véritable identité c'est l'écriture.
Oui, je l'ai toujours su, mais si vous voulez, l'écriture, ça a un prestige dans lequel vous vous sentez illégitime. Moi, j'étais emprisonné derrière mon idée derrière mon identité de fils d'Algérien. Et quand je dis fils d'Algérien, je veux dire immigré et oppressé. Et donc, on n'a pas droit aux marches supérieures. Et nos parents nous le disaient d'ailleurs, nous ne sommes pas légitimes, d'autant plus dans un pays étranger, on n'est pas légitime, donc on a une petite place où on nous a permis de manger un bout de pain, contentons-nous de cette place. Et donc je suis poursuivi par l'idée de l'illégitimité.
Ouais, mais finalement quand on a du succès on devient blanc.
Tout à fait, on devient blanc quand, je dirais... Peut-être pas
dans le regard des autres, hein, je veux dire.
Pas absolument le succès, mais quand vous accédez au discours, à une forme d'érudition. Et moi, j'ai compris que j'étais devenu blanc à cause du discours, parce que on veut s'adresser, avec le discours, on veut s'adresser au peuple, à ceux qui n'ont pas eu accès au code, et ils ne comprennent pas ce que vous leur dites, parce qu'ils n'y ont pas accès.
C'est le syndrome de l'imposteur dont vous nous parliez tout à l'heure,
oui,
ou pas ?
Oui.
Ça, c'est quelque chose.
Oui, il y a une forme d'imposture parce qu'on se veut porte-parole de gens, mais à partir du moment où vous accédez au discours, vous passez une frontière qui vous sépare des vôtres. Et quand les vôtres sont en bas, eh ben vous vous débattez en voulant parce qu'on veut absolument avoir un bras près du peuple et la tête dans les étoiles. Et je pense que ça ne marche pas. C'est ou l'un ou l'autre.
La part du sarrasin, donc c'est le titre de votre nouveau roman chez Actes Sud. Je vous disais tout à l'heure que vous écriviez de mieux en mieux, mais vous écrivez pas de plus en plus court. Vous finalement, vous faites pas partie de cette parce qu'on a des romans de la rentrée qui sont des romans punchline. Ouais. Vous, c'est votre mère qui les faisait les punchlines à la maison.
Oui, alors, j'ai écrit pas court, mais je regrette. C'est pas une volonté d'écrire beaucoup.
Non, mais on en a pour notre argent. C'est pas la tendance aujourd'hui. Vous savez, en ce moment, on écrit des phrases qui ont la taille d'un tweet.
Oui, mais je vous dis, j'ai presque un regret que ce soit aussi épais parce que je suis aussi entouré de gens qui sont pas des gros lecteurs et donc il y a une petite frayeur quand on voit arriver l'épaisseur d'un livre.
C'est vrai ça ?
Et chez moi aussi, oui. Ouais. Oui, un livre trop épais me fait peur et je fais des ouf quand je vois des livres pas trop épais.
Mais quand un livre est épais et qui se laisse facilement lire. Vous êtes triste à la fin d'être arrivé à bout, vous voyez ?
Oui, voilà. Alors moi j'ai vécu ça avec L'art de perdre d'Alice Zénitaire. J'aurais aimé qu'il fasse 1000 pages de plus. Des fois ça arrive.
Ouais, qui fait partie de
c'est
la
rentrée. C'est très épais et c'est bon.
Qui fait partie de la rentrée d'ailleurs aujourd'hui.
Qui a écrit un nouveau bouquin, oui.
Là vous êtes à la rentrée littéraire. Alors votre livre, il a une drôle d'histoire parce que finalement il n'était pas du tout prévu pour sortir là maintenant.
Oui, absolument, oui.
Hein, vous étiez parti de ceux qui devaient sortir pendant le confinement.
Oui. Bon, ben ça c'est voilà, c'est la vie des livres. C'était prévu 9 mois plus tôt. Puis après le Covid est arrivé et puis j'ai presque de la chance de sortir en rentrée littéraire.
Oui, c'est ce qui fait que vous faites partie des auteurs de la rentrée en fait.
C'est mon côté un peu chanceux.
Vous avez fait quoi pendant le confinement ?
Ben moi, voilà. Alors comme je suis devenu un peu moine, comme vous l'avez dit, avec l'âge, je suis dans une pièce avec un ordinateur et j'écris. Et donc l'extérieur ne m'a pas. Voilà.
Vous êtes dans votre pyjama avec votre robe de chambre toute la journée.
Sans robe de chambre, mais un pyjama effectivement. Un pyjama à trois bandes blanches. Si vous avez envie.
Non, mais c'est vrai que vous avez une tenue d'écrivain.
Oui, trois bandes blanches.
Et là, ça vous quitte pas, là, vous êtes
c'est,
avec.
C'est survette et à la fois tongue et survette, un côté sportif et un côté glandeur. Et au milieu, j'essaie de me trouver.
Beaucoup d'écrivains que je rencontre aiment leur enfance. Et vous, est-ce que vous aimez la vôtre ?
En vérité, oui. En vérité, oui, parce que, vous savez, quand vous avez été aimé, il y a des vapeurs permanentes qui vous habitent. Et je regarde ma mère qui, après près de 60 ans, je regarde ma mère et elle me renvoie à l'enfant que j'ai été, choyé, cajolé, protégé, guidé.
Ouais.
Bon, on a cette chance-là ou on l'a pas. Et donc j'ai cette idée du bonheur quand je pense à mon enfance.
La part du Sarrasin, donc c'est la suite de Ma part de Gaulois.
Un genre de suite,
ouais.
Puisque je n'avais pas prémédité de suite, mais voilà, on peut dire que c'est une forme de suite. Ouais.
C'est la rentrée littéraire, donc vous êtes chez Actes Sud, on cite l'éditeur parce que les livres, en plus d'être bons chez Actes Sud, ils sont beaux.
Ouais, ça,
c'est vrai. C'est une œuvre.
Oui, et d'ailleurs je le vois, à chaque fois que je rencontre des lecteurs, ils me disent Actes Sud, ah...
Ouais, physiquement,
ouais, c'est incroyable.
Ouais.
Des lettres de noblesse,
ça, la tablette,
qui rend le livre bon.
La tablette, elle remplacera jamais, hein, toutes ces choses qui nous permettent de lire sur des ordinateurs. Merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM.
Merci.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.